Allez-y, c'est parti. Pam, 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 pam. Allez, bien. Pam, 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 pam. Ouais. Ok. Une minute de récup.
Salut, Mermet. Mais j'aime bien tes émissions, j'écoute ça. Mais dis donc, là, t'as touché un truc vachement épineux, quoi, vachement dangereux, non? Tu crois pas? Hein? C'est fort mauvais, ce truc-là. Hein? Enfin, c'est intéressant, Marc. Moi, j'aime bien, j'écoute. Hein? Mais là, t'as fait fort, là. Là, c'est, il y en a qui doivent se poser des questions, là. Oh, c'est un sujet épineux, ça. Ouh, sujet dangereux. T'as soulevé le lièvre, comme on dit. Allez, bonne continuation, de toute façon. J'aime bien t'écouter tes émissions. Salut, Mermet.
Daniel, tu nous emmerdes avec tes cours forcés d'islamisation. Je suis fils d'émigrés italiens nés en France. À l'âge de 2 ans, j'ai été déchu de la nationalité française par Pétain et expulsé en Italie. 2 ans, tu te rends compte à cet âge-là le danger que je faisais courir à la nation. Tout ça pour te dire que ma religion à moi, ça a été l'école laïque et que malgré le fait que je parlais italien à la libération, j'ai fait de gros efforts pour m'intégrer et devenir un Français reconnaissant envers la nation France qui m'a accueilli et éduqué. Je ne me souviens pas de communauté d'immigration autant emmerdante et dangereuse que les Maghrébins. Je ne me souviens pas que l'on ait fait autant d'efforts pour intégrer les Italiens, les Espagnols ou les Portugais. Effort vain d'ailleurs, parce que parfois j'ai l'impression que c'est nous qui nous intégrons à l'islam peu à peu, un peu grâce à toi en partie. Quand j'entends des jeunes beurs de la deuxième génération, nés en France, devenir vedettes de music-hall en France et chanter en arabe dans nos médias, ça me trouble. Comme je suis très troublé de voir mon institution de référence, l'école laïque, méprisée et bafouée dans ses principes par des jeunes qui foulent aux pieds nos valeurs laïques avec leur foulard. Et puis Daniel, ne fais pas comme tes collègues du téléphone sonne ou des émissions publiques du matin, des cireurs de pompes patentés qui ne passent que les messages qui les arrangent. Ou tu prends en compte toutes les opinions et où tu deviens un propagandiste, choisi.
Bon Mermel, qu'est-ce que t'as gâché une heure d'émission avec l'islam? D'abord, ce sont des gens qui mangent pas de cochon. Et comment moi j'en bouffe à tous les repas? C'est-à-dire que je bouffe du curé, je bouffe de l'imam, je bouffe du pasteur, je bouffe du rabbin. Bon, je mange du porc à tous les repas, mais vraiment à tous les repas. Alors bon, je vois pas ce que ça sert à nous faire chier avec ces religions. Merde, on en a rien à foutre. Allez, c'est tout. Salut.
Bonjour, ici Virginie de Besançon. Je suis vraiment très contente d'avoir trouvé chez vous un espace pour s'exprimer par rapport à l'islam. Je suis convertie à l'islam et puis je suis quand même dans ma façon de vivre l'islam, les mouvements qu'on dit salafi, c'est ceux qui font le plus peur, mais je crois qu'ils sont les plus purs. Je les suis tranquillement, sereinement, dans mon coin. Je gêne personne. Voilà. Et puis, c'est arrivé après un beau chemin, une bonne réflexion sur la religion. Voilà, donc par rapport à l'intégration, je voulais dire que mon but à moi n'est pas de m'intégrer en France, parce que je crois que c'est un pays trop différent, et puis il y a trop de choses difficiles pour les musulmans. Donc moi, mon but, ça sera, Inch'Allah, d'aller vivre en pays musulman. À bientôt.
Oui, oui, oui. Beaucoup de variété, c'est le peu qu'on, c'est le moins qu'on puisse dire, dans les messages que vous avez laissés sur le répondeur de la base Sujisfi au 01 56 40 37 37 suite à cette série de reportages sur, que nous avons intitulé Islamalgame, et j'espère que le titre est assez clair. Il s'agit de découvrir cet islam, cette islamisation, cet islamisme dans notre bel hexagone, découverte lente, en écoutant les uns et les autres, et les réactions sont très violentes. Pas toutes, vous allez voir, il y a des réflexions ou des réactions mesurées, mais disons que c'est souvent assez vif. Et surtout, ce qui nous semble le plus important, c'est que ça manifeste une ignorance complète, non pas forcément de ce qu'est l'islam, l'islamisme ou le processus d'islamisation dans lequel nous sommes entrés. Comme le disait Olivier Roy, l'islam est passé à l'ouest, l'islam maintenant fait partie de l'Occident, et voilà, je crois que c'est intéressant d'essayer de comprendre ce que nous essayons de faire. Alors il y a le moment où on comprend, on tente de comprendre, et puis il y a le moment où on tente de faire comprendre, ce qui n'est pas forcément simple. Il faut dire que les arrestations qui viennent d'avoir lieu à Londres ne nous facilitent pas la tâche. Il y a cet islamisme radical qui existe bel et bien, que nous ne nions absolument pas, évidemment, qui est, faut-il le dire, le répéter, ultra minoritaire dans l'océan du milliard de musulmans qui habitent cette planète aujourd'hui. Mais ces islamistes radicaux fournissent le prétexte à un déferlement de haine contre l'ensemble des fidèles de l'islam. On peut parler vraiment, depuis le 11 septembre, d'une vague d'islamophobie. Et cette islamophobie, eh bien, certains en arrivent à oublier que l'islam est aussi tout simplement une culture, comme toute religion. Ben, il y a de la culture dans le christianisme, il y a de la culture dans le judaïsme, et comment ? Mais dans l'islam aussi, et c'est aussi une civilisation, une des plus brillantes civilisations, même si, comme on l'a évoqué récemment, souvenez-vous, avec Marc Ferraud, eh bien cette civilisation arabo-musulmane a connu les déboires de l'histoire à partir du XVIIIe siècle avec la colonisation. Mais soyez sans inquiétude, on va pas si loin, on va même pas à Finsbury, on va même pas à Londres, on va là tout près de chez nous, de Paris, de la maison de la radio, notre maison. On va faire une chose extraordinaire avec Thierry et Dila, on va aller dans la banlieue parisienne. Un exploit, mais auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, 01 56 40 37 37.
En ce moment, l'islamalgame, c'est vraiment superbe. Et je me pose la question suivante, et je lance éventuellement l'invitation suivante à Daniel Mermet et à son équipe. Bon, on parle effectivement toujours de l'islam intégriste, l'islam fondamentaliste, etc., etc. Bon, c'est-à-dire essentiellement les médias, la télé, un peu moins la radio de France Inter, mais beaucoup la télé. Mais jamais on ne parle de l'intégrisme ou du fondamentalisme que je vais appeler protestant, c'est-à-dire chrétien dans son dans sa déclinaison protestante. Or, cet intégrisme-là et ce fondamentalisme-là, c'est celui de Bush, c'est celui de Rumsfeld, le ministre de la future guerre et de toutes les autres guerres, c'est celui de Ashcroft, qui est la tournée générale, je crois, aux États-Unis. Et je trouve que ces intégrismes-là, sans parler des autres, hein, il y avait aussi Reagan qui était tous ce qu'ils appellent des born again, ce qui est une représentation très très forte, et plus qu'une représentation du fondamentalisme tel que les chrétiens sont capables de le vivre, c'est-à-dire qu'on prend les textes exactement pour ce qu'ils disent, on ne se sert pas de son esprit critique, on ne fait pas appel à des lectures symboliques, non, on prend les choses telles qu'elles sont dites, puisqu'elles sont dites, elles sont vraies. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce que ce fondamentalisme-là, d'aventure, il n'est pas au moins aussi dangereux que l'autre, celui dont on incrimine l'islam et les musulmans? Je dis au moins parce que, d'une façon générale, les musulmans ont quand même moins de pouvoir destructeur, si l'on accepte le terrorisme, qui de toute façon est inacceptable. Ce pouvoir destructeur des fondamentalistes américains, je me demande si c'est pas aussi dangereux, et j'aimerais bien entendre des tas de choses, si on peut dire, là-dessus.
Alors je veux bien, mais je n'ai pas à vous donner mes coordonnées. J'ai allumé ma radio à 17h50 et j'ai entendu un connard d'arabe qui disait qu'il était drogué, au chômage, qui vivait du chômage, c'est-à-dire des Français qui le paient, qu'il était très heureux, qu'il n'avait pas besoin de travailler. Eh bien, si c'est ça que vous donnez à Paris Inter, je crois que je vais changer de chaîne et je vais mettre sur la chaîne musique ou sur une autre chaîne, sur RTL ou autre, parce que comme connerie, entendre ça et montrer aux gens qui peuvent, avec la drogue, dans ces quartiers difficiles, vivre rien qu'avec notre argent, eh bien, j'en ai marre de vous entendre déconner comme ça. Au revoir.
Nous sommes des messagers, nous parsemons la paix.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, sur Paris Inter, Dilatébi, Thierry Schaff, Isla Malgam.
Flight number 2, arriving from New York.
Le prince Charles, il est venu, en une semaine, tu vois cette tour-là, le rez-de-chaussée, il était comme ça, il brillait. Pour pas que le prince Charles glisse, ils ont mis du carrelage antidérapant. Sur le mur, ils ont mis de la faïence. Mais pourquoi attendre que le prince Charles y vienne pour faire ça?
Qui est arrêté dans votre appartement alors?
Alors, moi, mon frère et mon mari qui n'étaient pas là.
Ils se sont un peu arrangés pour qu'on ait tout à proximité, pour pas qu'on bouge trop loin d'ici.
À l'époque, pour moi, c'était le paradis. C'était une salle de bain, il y avait une salle de bain dans la maison, il y avait l'ascenseur, c'était extra.
La copine, bah, je devais aller la récupérer, une vraie française de Paris. Quand je lui ai proposé de venir en transport, jamais de la vie.
Les salles de prière qu'on construit, elles sont trop petites. Des fois, on est obligé de prier à l'extérieur tellement on est nombreux.
Totalitarislamisme. Hein? Pas mal? Totalitarislamisme. Voilà un mot que je propose à nos infatigables fafounets, défenseurs de l'Occident, toujours à l'affût d'un nouveau déguisement. Pour eux, le 11 septembre a fourni une fenêtre de tir idéale pour diaboliser l'islam islamiste à l'assaut des démocraties. Voici le péril vert qui prend la place laissée par le péril rouge. On attendait les chars de l'armée rouge sur les Champs-Élysées. On a attendu des années, des années, des années. Eh bien, c'est le croissant vert qui nous prend en tenaille sournoisement avec duplicité, évidemment, s'infiltrant dans nos banlieues, dans ces mosquées soutenues par les tiers-mondistes. Ah, les tiers-mondistes, et oui, Beauvais, Ben Laden, c'est le même combat. Et la France baisse les bras, la France molle, la France décadente baisse les bras. Eh bien, il faut que cette France se redresse, debout les cœurs, sauvons l'Occident et en avant. C'est à peu près, j'exagère, peut-être un peu, mais c'est pas bien sûr. C'est à peu près le discours qui essaye de s'installer. Ça fait long feu, la poussière est retombée, la silhouette classique des croisés est apparu dans la poussière, des tours jumelles, mais tout de même, l'incompréhension demeure, l'incompréhension s'installe, l'incompréhension persiste, et voilà pourquoi avec Thierry et Dila, on est depuis plusieurs jours à essayer de comprendre cette islamisation, cette réislamisation de notre pays. Je le rappelle, 5 à 6 millions de musulmans en France, 10% seulement de ces musulmans pratiquent leur religion, vont à la mosquée, c'est le même pourcentage que les catholiques et les juifs. Et parmi ces 10% de musulmans pratiquants, on trouve un mouvement de réislamisation, une sorte de de partage du départ de marché des âmes, il y a une économie du marché des âmes, que se partage un certain nombre de tendances, souvent rivales, souvent très rivales même, qui s'appellent salafistes, wahhabites, habaches, tablir, on a vu l'autre jour ce prêcheur du tablir, soufis, etc., qui constitue autant de on pourrait dire de chapelles ou de paroisses, et qui aujourd'hui produisent des effets qu'on pourra juger positifs, qu'on pourra juger négatifs, qu'on pourra juger consternants, qu'on pourra juger menaçants, mais qui se produisent dans notre société, que l'on ne pourra pas mettre à l'extérieur. Ça y est, il y a une intégration qui se fait, il y a des gens qui ont la nationalité française, qui sont là depuis plusieurs générations, donc il sera très difficile de s'en séparer, Madame de Paris Inter. Et oui, on est tous français, tous sur le même navire, et y faire, faire, c'est faire avec. Il y avait une chanson qui autrefois disait, dont le couplet disait, et tout ça, ça fait d'excellents français. Je sais pas si un jour ça fera d'excellents français, mais voilà, c'est une nouvelle étape d'une intégration dans notre hexagone. Ça ne va pas sans problème, ça ne va pas sans question. Nous essayons non pas d'apporter des réponses, mais de témoigner sur ce phénomène de société, montrer aux uns comment vivent les autres et lutter contre cet islamalgame.
DJ Quidro, micro sonore pour niquer le décor. Gamma, le vermoniseur de calibre 38, ceci est un rag à contre les parades. Tous les jours, le matin, ouvre les mêmes quand tu veilles. Sinon, tu risques de passer à la mise en bouteille. Sinon, quelqu'un me ramène à te manger la faim. Parce que c'est rabadab, la big freak fashion. It's a big jam with us, any solution. Je te donne un exemple sur my situation. I live in the banlieue with all the information. I am on Europe et j'ai quitté Afrique. Je laissais ma bada, ma mada et ma fada. Et c'est l'immigration exil for all my brada. In Afrique, Fajana. In Abidjan. Afrique, Fajana. In Abidjan. I said Afrique, Fajana. I said Afrique, Fajana. In Abidjan. Copacabana, Jamaicana, diddy 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 bam. Copacabana, Jamaicana, berbam berbam diggy diggy dam. Copacabana, Jamaicana, I and I. That's the children of the most high Jah. Rastafari. Super jury, tu vois, la grosse transparence d'une société des gaspillages, des très grosses carences. Sur les moquettes, sur les moquettes, sur les moquettes de Babylone. Sur les moquettes de Babylone, s'entasse la nourriture pendant que des enfants n'ont pas de nourriture. Dans ce pays, un clivage, une cassure entre le fond et la forme, la ferme a plus d'importance qu'un pays de la bombe. S'il y a une drôle d'ambiance, alors on esthétise, on soigne les apparences tous les jours pour nous fermer en avant des nouvelles défenses. La fruit fashion, la fruit fashion.
Allez, boum, boum. Allez, allez, tempo un peu plus rapide maintenant.
Pam, 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 pam.
Allez, bien.
Pam, 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 pam.
Allez.
Boum, 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 boum.
Ouais, bien.
Boum, 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 boum.
Aïe.
Ils sont une quinzaine, les gamins qui sont en train de cogner sur les sacs dans cette salle de sport. Et ils rêvent de cette musique, ils rêvent du kung-fu. Et pourquoi ils rêvent du kung-fu? fous parce qu'ils sont avec le champion de Kung Fu, Nordin Zenati. Et où ça se passe, ça? Eh ben, ça se passe au Bosquet. Et les Bosquets, c'est à côté de Montfermeil. Et Montfermeil, c'est à côté de Paris. C'est dans le 9-3 que nous sommes à nouveau aujourd'hui pour une petite balade, une découverte de ce quartier, un de ces quartiers qu'on dit sensible, comme on dit. Et c'est vrai que c'est pas si facile que ça d'y être accepté, d'y entrer. On sent quelque chose fait que vous sentez que vous n'êtes pas forcément désirable. Mais et Nordin Zenati, l'ex-champion de Kung Fu, avec qui on s'est baladé hier, qui, lui, alors, avec sa carrure et puis son expérience, sa longue expérience dans ce quartier, est respecté de tous. Le mot magique, c'est respect. Tu me respectes, je te respecte, on se respecte, c'est le respect. Alors, on est dans cette salle de sport. Et on va parler, bien sûr, le sport, l'intégration par le sport, c'est un vieux truc et qui marche très bien, évidemment. S'il y a les équipements, s'il y a la pêche, s'il y a les interlocuteurs valables, c'est toujours quelque chose qui marche, évidemment, auprès de ces gamins. Les gamines, c'est différent, je ne sais pas si elles font du sport, en tous les cas, pour les jeunes, c'est le grand moyen classique d'animation. Mais pour autant, c'est un moyen d'intégration limité pour ce qui concerne une population de culture, on va dire, musulmane, qui n'a pas trouvé jusque-là, ou qui est à la recherche depuis de longues années, de son moyen d'intégration, et selon les uns et les autres, à travers l'islam, à travers cette réislamisation, ils trouvent ce moyen, le moyen de leur intégration. C'est au moins ce que nous a dit hier Nordin Zenati, qu'on va retrouver aujourd'hui. Mais on va retrouver d'abord son assistant, qui est ceinture noire de Kung Fu et qui s'appelle Omar et qui en a vu des choses.
Quand on voit les Bosquets d'avant et les Bosquets d'aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Mais je pense qu'avant tout, c'est grâce à l'islam que les Bosquets ont bien tourné. Parce que si on regarde bien les anciens qui faisaient les conneries, la plupart se sont mis à l'islam. Et au jour d'aujourd'hui, ceux qui faisaient les problèmes se sont rangés et sont très respectés d'ailleurs au niveau des policiers. Parce qu'ils voient le changement que l'islam a apporté sur eux. Et ils trouvent ça que bénéfique.
Les frères arrivés dans le quartier, tu te rappelles de ça?
Ils ont commencé très peu, ils ont commencé peut-être à une dizaine. Et en parlant, en prêchant assez souvent, les gens, ils ont commencé à prendre conscience que finalement, on était essentiellement musulmans et que le comportement du musulman était de faire montrer une bonne image de l'islam et pas donner l'image qu'on donne actuellement du musulman ou de l'arabe de banlieue.
C'est quoi? C'est le tablir? C'est les frères musulmans? Tu sais ça ou pas?
Moi, personnellement, c'est les frères qui sont à la mosquée.
Le local rose?
C'est ça.
Alors, par exemple, ta femme, il faudrait qu'elle soit voilée ou pas?
Moi, personnellement, à partir du moment où elle est musulmane, déjà, c'est le point essentiel. Mmh. Et à partir de là, le voile, c'est pas une obligation. Disons que c'est...
Quand je dis voile, c'est foulard.
Oui, le... Mais moi personnellement je voudrais bien qu'elle ait le foulard. Mais à partir de cet instant-là, si elle ne le veut pas, je peux pas obliger à le mettre, quoi.
Mais toi t'aimerais bien?
Personnellement, oui.
L'islam soluble dans la République, c'est un des thèmes récurrents dans les médias, dans les conversations. On sent il y a une menace, il y a un soupçon, il y a une incompréhension, parfois il y a une barrière définitive, mais finalement c'est assez limité, hein, cette barrière définitive. Il y a d'abord une profonde, très 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 profonde incompréhension. Là précisément, on est à la dans cette salle d'entraînement au réveil de Livry-Gargan, c'est dans le 9-3, et dans cette salle de sport, de kung-fu, il y a 200 jeunes qui sont inscrits, et ils sont inscrits parce qu'ils ont une vénération évidemment pour Nordine Zenati, cet ancien champion de kung-fu. Il a une quarantaine d'années, Nordine, mais surtout, il nous l'a expliqué hier, il a une longue pratique de l'animation. Il a fait l'opération des grands frères avec la RATP, avec des dialogues entre les chauffeurs de la RATP du bus 247, qui était mon bus quand j'étais gamin. Parenthèse. Et voilà, il y a des résultats. Ça se fait pas avec des coups de poing, des opérations violentes. Ça se fait peu à peu et ça se fait comme ça. Et l'islam là-dedans, cette islamisation, eh bien, remplit une fonction. On va déjà dire ça, une fonction sociale bien précise. Nordine Zenati.
Les frères. Enfin, c'est pas les frères musulmans, c'est les frères du Tablir. Ils ont fait un boulot extraordinaire. C'est vrai ce que nous, on n'a pas réussi à faire avec certains jeunes pendant des années. Eux, ils ont réussi en quelques mois. Ça, je le reconnais, c'est vrai. C'est peut-être une de la chose qui manquait à ces jeunes-là, à ces personnes-là. Il n'y avait pas forcément que des jeunes, il y avait aussi des adultes. Il leur manquait ce côté spirituel. Peut-être aussi, c'est un rapport avec leurs origines. Leur appartenance à une communauté. Peut-être ça leur manquait. Que nous, peut-être, on n'a pas su le donner, ou c'était pas notre rôle de le donner, d'ailleurs. Lorsqu'on travaillait sur le quartier en tant qu'animateur et en tant que grand frère.
Comment t'as vu ça, l'arrivée du tablier au bosquet?
Ça remonte à 96, 97, hein. Au départ, ils étaient très, très peu, nombreux. Et je me rappelle, certains disaient à l'époque, ouais, qu'est-ce qu'ils viennent nous prendre la tête, ces barbus. Après, c'était eux qui sont devenus des barbus. Mais bon, ils sont devenus.
Ouais, vraiment, hein.
Ah ouais, vraiment, vraiment. Ils sont devenus, c'est des mecs qui étaient dans le quartier, qui traînaient, et grâce aux frères du Tablir, c'est des mecs qui sont devenus, sérieux, ils ont délaissé les halls, ils ont délaissé la voie de la délinquance, ils allaient prier dans les mosquées. Ensuite, il y en a certains ont repris des études, d'autres ont continué à étudier, d'autres se sont mis à apprendre la langue arabe. Donc vraiment, c'était enrichissant pour eux. Et c'était un point positif pour nous dans le quartier, parce que c'est vrai que le quartier a retrouvé un certain calme.
Toi, tu vois ça de façon positive?
Ah oui, tout à fait. Avec les frères de Tablir, je vois ça de façon positive.
Ça t'a pas un peu gêné par rapport à tout ce que t'as pu faire toi, qu'eux, ils réussissent aussi facilement? Comment ça se fait d'ailleurs qu'ils réussissent?
C'est la question qu'on se pose tous, hein. Je pense que c'est le côté spirituel et le côté de la communauté, le retour un petit peu aux origines, appartenance à une communauté. Ils se sentaient peut-être pas concernés par la République. Je pense qu'ils étaient aussi délaissés. Nous, à l'époque, on avait une passion, on avait un objectif, c'était le sport, le kung-fu. D'autres ont fait le tennis, d'autres ont étudié. J'ai des copains qui sont devenus ingénieurs en informatique, ils ont leur propre boîte aujourd'hui. Mais on n'était pas nombreux, on n'avait pas tous cette chance-là. Tous, la majorité, soit on était la première génération, soit on était encore des immigrés qui ont immigré à l'âge de 2 ans ou 1 an. Donc tu vois, on ne savait pas encore... On savait pas de quel côté on se situait. Ouais, tu peux mettre ça là-haut.
Là, c'est la fin du cours, là. Tout le monde s'en va.
Tout le monde s'en va, ça y est. Ils ont bien transpiré, ils ont bien travaillé. Ce qui est sûr, c'est qu'à mon époque, l'idée de mon père, c'est de rentrer au pays. Lorsque nous deviendrons grands, nous allions rentrer. C'est ce que disait mon père.
En Tunisie.
Nous deviendrons grands, voilà, nous rentrerons. Eh ben, il s'est trompé. Nous avons tous grandi, mais bon. Ils sont à la retraite, ils sont rentrés eux.
Et tous les petits élèves sont là.
Et tous, on est là. Mais bon, pour certains, le quartier ne leur appartenait pas. Ils allaient le quitter un jour ou l'autre.
Les parents, en tous les cas.
Les parents. Les jeunes aussi avaient cette mentalité. Mais ils ne savaient pas qu'ils allaient rester, les jeunes. Moi, je ne savais pas que j'allais rester. Moi, j'étais gamin, bon, c'est mes parents qui décident, je suis les parents. Mais bon, le temps a fait que, on a grandi, l'éducation, en France, a pris le dessus sur l'éducation du pays, et puisque C'est la seule qu'on a eue, en fait. Hein. L'école, c'est l'école française, c'est pas l'école tunisienne. Hein.
Alors, je connais des auditeurs qui s'inquiètent, qui disent, mais nous parlent de quoi? Mais la religion, Mermet, c'est l'opium du peuple. Oui, faut peut-être pas avoir la mémoire trop courte quand même. Est-ce que vous vous souvenez du patronage des curés, du catéchisme, des jeunesses communistes ou des éclaireurs de France, etc. Alors on va dire, mais c'était pas pareil. Mais nos parents étaient bien contents de nous coller au patronage des curés qui nous faisaient prier, qui nous faisaient répéter des choses. Et voilà, et puis ça a été comme ça. Bon, on s'en est sorti, hein, on s'en est sorti. Et on n'a pas été plus traumatisé. Est-ce qu'on peut comparer ce qui se passe dans les milieux musulmans français aujourd'hui et ce qui se passait jadis dans nos patronages et dans ces jeunesses laïques, voire liées à des partis politiques, parce que ça existait. Eh bien, une question qu'on peut poser à des chercheurs, beaucoup de chercheurs sur ces sujets, mais c'est pas, il y a un truc entre les chercheurs et le ce qu'ils appellent eux-mêmes le terrain, qui aurait tendance à nous faire considérer comme des personnages un petit peu hors sol. Un qui n'est pas hors sol du tout, c'est Xavier Ternisien, qui est journaliste, et qui a fait une longue enquête dans les mosquées françaises. Il y a 1600 mosquées, il n'a pas visité les 1600 mosquées, mais il en a visité pas mal, très calmement, en reporter, et il en a tiré un certain nombre d'observations. Alors sur cette crainte, sur cette menace que l'islam ou cette islamisation constitue pour dans l'esprit d'un certain nombre d'entre nous, réponse de Xavier Ternisien.
Ma conviction est que les religions devraient être plutôt et sont plutôt des facteurs d'intégration. Moi, je pense pas que alors j'ai l'air d'être un naïf quand je dis ça et quand je dis que les quelques phénomènes auxquels on a assisté, comme le taliban français Hervé Jamel Loiseau ou comme les dernières arrestations en banlieue parisienne. Moi, je pense que pour moi, c'est marginal et que les musulmans français sont beaucoup plus intégrés qu'on veut bien le dire, quoi. Moi, quand je vois des jeunes de la deuxième génération, ils sont très français. Ils sont les jeunes musulmans pratiquants, je parle. Hein. Mm-hmm. Et comme les Français, ils sont râleurs, ils sont individualistes, ils sont par beaucoup de côtés, ils sont très français. Donc moi, honnêtement, je ne vois pas un islamisme qui menacerait l'intégration. Je pense au contraire que l'islam peut être à terme un facteur d'intégration, comme le judaïsme l'a été aussi en France pour les juifs dans la grande tradition du judaïsme ashkénaz. Ce qu'il faut bien avoir en tête, on a en général tendance à voir le phénomène islamiste comme un cercle clos, un chaudron en fait, qui serait le chaudron de la banlieue, des jeunes fanatisés, ré-islamisés, socialement frustrés, et qui se radicaliserait et rejetterait d'un seul bloc l'Europe, l'Occident, la France, etc.
Oui, oui.
Or, ce n'est pas un vase clos. Ça fonctionne pas comme un vase clos. Uh-huh. Et ce que m'ont montré mes récentes enquêtes, c'est qu'on oublie qu'il y a un va-et-vient permanent entre les pays d'origine, entre l'Algérie notamment. Il se trouve que tous les, pour des raisons qui restent à éclaircir, la plupart des islamistes qui ont été arrêtés cette dernière semaine sont tous algériens ou originaires d'Algérie. Bon. Or, la population pratiquante en France, elle est plutôt marocaine. Donc, il y a un va-et-vient entre les pays d'origine et l'encadrement de l'islam dans les banlieues ou institutionnelles est souvent le fait de ceux qu'on appelle des blédards, c'est-à-dire des gens qui viennent en France pour étudier, des étudiants attardés ou pour telle ou telle chose, et qui viennent parés d'un certain prestige parce qu'ils parlent bien arabe, ils connaissent bien le Coran, etc., et qui viennent encadrer ces jeunes. Donc il y a un va-et-vient. On ne peut pas faire, si vous voulez, comme si c'était une espèce de vase clos qui sera en ébullition. C'est pas vrai, c'est une structure ouverte où ça va, ça vient, ça sort, il y a de la sécularisation. et il y a du renforcement identitaire. Mais c'est pas du tout un vase clos ou un chaudron bouillonnant.
C'est qui, bordel?
Mais c'est qui, dis donc?
Ben, c'est Dédé!
Ouais, excuse-moi, Dédé, c'est pas connu, vas-y, rentre, j'ai un bon petit coup de gnoule, là, vas-y, viens.
Ok, ça sera pas de refus. Oh là là, mais t'as l'air pas long, là!
Je te le fais pas dire, j'ai pas pu dormir de la nuit, il est noir, les arabes, c'est bordel.
Ah ouais, les vitamines naturelles?
Oui, il y avait trop d'odeur en plus.
Quoi, du hachis?
Si, si, méchant, méchant. Si, si, méchant, méchant. Si, si, méchant, méchant. Si, si, méchant,
mais c'est pour toi la française.
Musée pas le musée d'IA. Vie en rose façon Dolce Vita. Pour moi c'est plutôt VIA. Sans à l'heure comme à Daytona. Faut que je fasse le max pour amener les CFA. Je me comprends, tu vois j'ai pas le temps de faire le tour des monuments de Paris.
Mon bâtiment me suffit.
Même si peu de touristes passent par ici. Ici et là on représente loin des clichés. Cartes postales, Champs-Élysées. Cette vie de bohème donc peu de comédiens de l'art. Et je donne les faits, rien que les faits comme sur Arte.
Mais si pour toi en France, y'a trop de rebeux et trop noirs. Et que ça pute, trop de tchorailles près des zones à contrat. Moi je me fous du monde et prépare ma libération. Je suis le nouvel observateur en pleine expansion.
Ça me fout la rage
de faire comme si c'était pas grave. Lorsque les FM poussent à la scène un arabe. Alors que quand les Didi Dye, la Sachiale chamée. L'opinion publique française soudain s'est alarmée.
Mais
éloquence pense que pour nous y'a moins de chance. Je baisse pas les bras mais c'est ça la France.
C'est ça la France. C'est ça la France. Autant de bourdes dans le bistrot. Que le mec fume mon pédo. C'est ça la France.
Autant de refrains au stupo que de variettes chez Foucault.
C'est ça la France. Autant de bonnes Golido que de Chasselot dans le métro. C'est ça la France.
Autant de rage dans mes mots que de conneries chez Parto.
C'est ça la France.
De loin là, de l'eau, René
et Bardo.
Dans le même sac quoi.
Poubelle, dans le sac poubelle. Bande de mytho.
Pam, 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 pam. Allez bien.
Une minute de récup.
Par où est-ce qu'on arrive?
Là, on est au Bosquet. Hein.
Ouais. C'est ton quartier, c'est ton quartier
non,
d'origine?
Pas mon quartier. Pas mon quartier d'origine. Ça, c'est les Bossets. Moi, j'habite juste dans le quartier à côté, c'est Clichy, mais c'est une barrière qui nous sépare.
Alors, donc, le centre des Bosquets avec des bars et des bars.
Des bars partout.
Ouais. C'est vachement tagué, vachement un peu.
Ouais, mais bon. Ça, c'est. Si on regarde bien dans tous les quartiers, c'est tagué, hein. Donc c'est pas un quartier spécial tagué. Hein.
Vas-y pas chef.
Donc on a un stade aussi.
Ouais.
Le stade Henri Barbus, qui est superbe. C'est là où on vient tous les dimanches regarder nos matchs. Et là vous avez la poste, vous avez ce qu'ils appellent le service public. C'est en fait ils nous ont tout ramené à portée de la main quoi. Je sais pas si c'est pour qu'on bouge pas ou si mais on a tout à la portée de la main, on a même un commissariat.
Ah ouais, voilà. Tout ça au même endroit là, ici là,
tout
le truc
endroit,
éclairé là en bas.
Ouais. Tout au même endroit. Il y a une maison de quartier que vous voyez sur votre droite là, mais qui est plus en activité. Hein. Ouais. Je sais pourquoi, je sais pas. Mais c'est souvent en été parce qu'en hiver il y a pas trop d'activité pour les mômes. Donc c'est plutôt pour l'été, pour les vacances, pour tous ces trucs là quoi.
Toi t'as grandi là, hein? Et ça c'est étonnant que tu vois par exemple là que tu préfères qu'on parle dans la voiture là.
Je suis pas le genre de mec à parler beaucoup. Ma réputation attends c'est normal. Ils vont dire, ah, en plus, t'as été le chercher à Pantin et tout, tu nous l'as ramené, pourquoi, pour quel genre, pour quel ceci, pour, tu vois, ils vont me poser plein de questions et j'aime pas.
Mais c'est le journaliste que t'as ramené.
Voilà. Donc c'est tout.
Attends, je baisse le micro là, parce qu'il y a des jeunes qui sont dans les escaliers.
Voilà. Là, j'ai grandi ici maintenant. Ça, c'est mon quartier, c'est Clichy-sous-Bois. Donc vous voyez, c'est propre, hein, déjà, c'est, y a moins de tags. Je sais pas si vous voyez.
Et c'est marrant, parce que d'une rue à l'autre, là, hein.
Ça change.
Ouais. Ouais.
Le centre commercial, il est brûlé, là.
Et non, il est brûlé, mais c'est un accident. Ça n'a pas été volontaire. Ouais. Ça n'a pas été, je crois, du moins, pour moi, ça n'a pas été criminel. Ouais. Ça a été, il y a eu un accident parce qu'il y avait des travaux et des gens qui ont laissé des bouteilles de Citylane, je crois, des travailleurs qui ont laissé leurs bouteilles. Apparemment, ils ont dû mettre au niveau sécurité, c'était pas terrible. Donc, ça a pété. Ben voilà, quoi. Ça, c'est là, c'est le quartier. Donc, comme vous voyez.
Tu vois,
attends, tu salues. On peut aller les voir ou ça te gêne?
Ça me gêne parce que la personne celle-là, elle est tombée.
Ok. Je t'attends alors.
Hein. Vas-y, attends-moi dans la caisse.
Voir les jeunes.
Ouais.
C'est des potes à toi?
C'est des potes, non, c'est des petits jeunes, mais bon, je les connais. Je connais tout le monde ici. Bon. Ouais. J'arrive.
Ah, je t'attends.
Bon, ah oui, ben c'est. Oui, c'est. On dit quartier sensible, c'est pas.
Oui, il y a, ouais, voilà, oui, c'est pas simple. Pour MB, par exemple, qui nous cause ma condition qu'on plante un peu notre micro, il y a quand même une petite ambiance ghetto, il y a une petite ambiance gang, c'est pas, souvenez-vous, quand on était à Los Angeles, c'était autrement plus chaud. Mais enfin, voilà, à l'échelle française, il y a quand même cet aspect-là qu'il faut absolument pas, dissimuler, minimiser, angéliser, et ni esthétiser non plus d'ailleurs. Et d'ailleurs, le frère de MB, on l'appelle comme ça, s'appelle Ahmed Ledouni, il a été arrêté, lui aussi. On a eu une arrestation hier, il y en a une aujourd'hui. Il a été arrêté il y a 18 mois pour complicité supposée avec des groupes armés islamistes.
Les impressions de son frère. Elle avait pas de foulard, ça le dérangeait pas. Il est juste, il lui faisait de temps en temps des rappels, c'est bien si tu mettais le foulard, mais c'est tous les musulmans, ça.
Une barbe ou...
Non, mais c'est une petite barbe, on va dire, mais c'est pas la grosse barbe, hein, c'est une petite... De toute façon, nous, dans la famille, on n'a pas des grosses barbes. Donc, des fois, il la rasait, et il la laissait repousser pour qu'elle soit plus belle, tout simplement. Mais bon, on peut pas condamner quelqu'un parce qu'il a une barbe, quand même. Il travaillait, il avait un cabis, il faisait les marchés, il avait 3 ou 4 jours, il faisait les marchés, il allait à Londres chercher de la marchandise, comme plein d'autres. Donc maintenant, si on lui reproche d'avoir allé à Londres pour acheter de la marchandise, bon, je sais pas. Il a fait un voyage à La Mecque. Il a suivi l'islam, et moi je l'ai arrêté en cours de route. Et lui, il a appris, il a bouquiné, et il s'est intéressé, et puis voilà. Il allait, il faisait ses prières à la maison, après il allait à la mosquée. Et après, ben il allait à la mosquée, il faisait son marché, il faisait ses prières. Et il bouquinait. Et puis voilà, c'est comme ça qu'il est rentré tout doucement. On rentre pas d'un coup comme ça dans l'islam. Il est rentré tout doucement, tout en faisant. Après, il s'est marié. Il a vu qu'il fallait que dans l'islam, faut se marier. Il s'est marié. Quoi, sa vie, il vivait comme ça, avec sa religion dans le cœur.
Mais attention, attention. Nous revenons pas sur cette fanatisation des jeunes beurs, cette vague qui nous imprègne encore très largement, qui a suivi le 11 septembre, où la découverte de talibans français a fait grandir dans nos banlieues, vis-à-vis de nos banlieues, d'une partie de nos banlieues, enfin de ces quartiers dits sensibles comme celui-là, vis-à-vis de ces quartiers, une défiance, une méfiance, une trouille. C'est un cas, voilà, qui se trouve là, que nous ne maquillons pas, que nous ne déguisons pas, nous ne disons pas que ça n'existe pas, mais il n'y a que ce cas-là. Il faut pas généraliser, nous essayons de comprendre. Voilà d'ailleurs ce que pense de ce cas-là Nordine Zenati, notre guide et champion de Kung Fu.
Toi, tu vois pas où est le problème avec cette histoire d'islam. Toi, tu trouves qu'au Bosquet, l'islam, ça se passe bien.
Bien sûr que ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. Maintenant, si vous voulez me citer le cas qu'il y a eu dernièrement, pour l'instant, je vous dis, on connaît pas ni les aboutissants. Et même, sur des millions, il y en a combien? Dans les autres religions, ça n'existe pas, ça? Ça n'existe pas chez les catholiques, chez les juifs, il y a pas des gens qui sont plus vers les extrêmes que d'autres, et c'est la minorité en général. C'est une toute petite minorité. Donc, il ne faut pas généraliser. Là, je sais pas ce qu'ils vont chercher dans nos quartiers et dans nos mosquées, mais qu'ils cherchent, au contraire. Au contraire, moi, je suis pour. On peut même mettre des micros dans les mosquées. Ça me dérange pas. On n'a rien à cacher. Enfin, moi, pour moi, ça reste la religion, c'est une relation entre l'individu et Dieu. Bien sûr, on a des guides, on a des gens qui vont nous orienter. Après, c'est selon la réflexion de chacun. Dieu nous a donné justement la faculté de réfléchir.
Ça tombe bien.
On écoute les discours de tout le monde, et on réfléchit, on choisit sa voie. Après, on a que des comptes à rendre qu'à sa conscience, à Dieu, à sa conscience.
يا رب ما لي في الوجود سواك وأعز آمالي 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 نوال رضاك.
Islamisation, réislamisation, c'est notre thème aujourd'hui encore. Et bien sûr que on ne peut pas évacuer la question de la communautarisation, du communautarisme, qui est c'est un véritable défi posé à notre société laïque et notre société d'intégration, notre culture aussi d'intégration. La réislamisation permet aussi de masquer les questions sociales, c'est le paravent au problème bien connu de relégation, de frustration sociale, de rejet racial, de chômage, etc. Et puis, il y a l'existence de ultra-minoritaires, de ces groupes ou de ces personnes, le mot groupe est sans doute excessif, ultra-radicales. Tout ça, ça fait partie des tensions qui sont à l'intérieur de ce processus de réislamisation. Mais ce processus de réislamisation, eh ben, il se passe à l'intérieur de notre hexagone, de notre société, on peut dire, de notre Occident actuellement. Voilà un parcours assez exemplaire, celui d'Abdel.
Est-ce que toi, t'as reçu une éducation religieuse ?
Logiquement, je viens d'une famille de musulmans.
Tu portes une longue tunique, ouais. Hein, avec une barbe.
C'est clair, c'est que je suis musulman, bien sûr, mais mon éducation, elle n'était pas faite à 100%... J'ai une petite éducation musulmane. Je l'ai pas eu en étant jeune. J'ai pas eu une grande éducation musulmane. J'ai eu quelques. C'est beaucoup les coutumes en fait chez les vieilles personnes. C'est beaucoup en coutumes. Donc nous après, c'est pas parce qu'on est de parents musulmans qu'on est musulman. Tout simplement, c'est qu'on doit faire un travail sur nous-mêmes, c'est-à-dire aller chercher les connaissances. Mais ça remonte à quelques années. Je veux dire, entre temps, il y a eu un trou. L'ignorance en fait, on est vulnérable. C'est-à-dire, on essaye de poser des questions aux gens parce qu'on connaît rien. Donc on pose des questions aux gens, mais des fois les gens ils sont pas aptes à donner ces réponses-là, ou ils n'ont pas le... Tu te poses des questions sur ta vie présente. Est-ce qu'elle est en conformité avec la religion, ou la façon que tu dois vivre, tout simplement. Mais moi, et après je pensais que en fait l'islam était était dur. C'est-à-dire au niveau de c'est comme ça et c'est pas autrement.
Mais d'où ça venait cette idée que l'islam c'était dur ? Est-ce qu'il y a des gens, toi, qui sont venus t'influencer ?
Me pousser vers le mauvais chemin, l'extrémisme. En fait, c'est une personne qui pratiquait et qui se disait un peu un petit chef de groupe. On a commencé à discuter. Bon, la personne, c'est vrai qu'elle avait plus de connaissances que moi, parce que moi je connaissais pas grand-chose.
Mais c'est un gars qui vivait dans ta cité, qui était ailleurs ?
Qui vivait dans notre cité. Tout le monde l'écoutait en fait. Beaucoup de petits jeunes l'écoutaient, de petits jeunes.
Donc tu faisais partie.
Voilà, donc je faisais partie.
Et alors comment ça s'est passé
Comment ça s'est passé après, j'ai rencontré des conflits avec ma famille personnelle. Par exemple, par rapport à la musique, c'est pas autorisé d'écouter de la musique parce que déjà on sait pas ce que ça dit si on écoute les chansons américaines et tout. Et en plus, pour nous, c'est des futilités tout simplement. Donc, j'arrivais chez moi, exemple, s'il y avait de la musique, je disais bah non, ça existe pas, la dureté, faut arrêter, donc et tout. Donc ça commençait. Ils avaient des opinions différentes avec moi, donc on commençait un petit peu pas à venir aux mains, non du tout, mais avoir un discours un peu plus. On s'engageait des disputes verbales, voilà, tout simplement.
Avec qui, par exemple, dans tes frères ?
Mes frères, mes sœurs.
Quoi d'autre ?
Par rapport à la télé, les films qu'on regarde, des films, je sais pas, avec des...
T'étais le censeur, quoi. Tu disais voilà, ce qu'il fallait faire et pas faire dans la famille. Voilà. Pas de télé, pas de musique.
Tout ça, voilà. Et ça commence à devenir un peu dur à vivre.
Mais comment ça se passait, ce gars-là, qui t'influence, hein ?
On se croisait à la mosquée, c'est clair. C'était devenu un ami. Donc on commençait à se voir régulièrement et tout. On avait des sujets de conversation 2-3 heures, hein, même 4 heures des fois.
Et ce gars, il était de quel courant du tablir, d'Ouahabite ?
Il se définissait pas par rapport à un nom. Lui, il prenait l'islam dur. Il disait c'est comme ça. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'autorité au-dessus. C'est-à-dire que lui, il disait c'était lui le chef. Tout simplement, le danger, c'était que c'est qu'on peut partir très loin. C'est qu'on n'aura plus de vie. social, c'est-à-dire se couper du monde actuel.
Quel mot il a trouvé pour t'amener à lui?
Il va vous parler de, il va vous parler de la religion par rapport au, à gagner le paradis, ça c'est clair. Les gens qui parlent comme
ça. C'est ça qu'il disait.
Voilà. Donc il parle comme ça, il parle avec une certaine éloquence. C'est comme si il nous versait du petit lait et on y avance et les yeux fermés, on lui fait confiance et après, ben, on voit les dégâts. Dans les familles, dans...
Avec ta famille, ça allait plus.
Ça allait plus. J'avais beaucoup de disputes. Beaucoup de disputes. Le problème, c'est que, bon, nos parents, on vit tous les jours avec eux. Donc, après, on commence à... Je croyais que c'était vraiment la vraie voie à suivre.
Mais c'était quoi son but, à ce gars?
C'est d'être chef d'un petit groupe. Ces gens-là, ils aiment bien être connus dans un endroit de...
En fait, tu décris un caïd, quoi, une espèce de petit caïd. Hein,
de caïd qui sert de l'islam pour être reconnu dans son territoire où il vit. Petit chef de banlieue, tout simplement.
Nous sommes des messagers.
Alors voilà le parcours de ce jeune homme Abdel, qui n'est pas sans rappeler des parcours que des jeunes connaissent. C'est la crise mystique, hein, ça arrive dans la jeunesse avec le gars qui manipule, qui influence. C'est pas, y a rien là de monstrueux ou de très exotique. C'est un phénomène tout à fait classiquement observable, comme on dit, dans nos sociétés depuis longtemps. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on parle avec des éducateurs, des gens qui sont dont le métier est d'être en proximité de la jeunesse en permanence, de ces jeunesses là en permanence. C'est le cas de Dounia Bouzard, par exemple, et qui sont étonnés ces travailleurs sociaux de voir que les associations religieuses réussissent beaucoup mieux que les éducateurs et les travailleurs sociaux qui sont bien obligés de constater que leur bilan est plutôt léger par rapport à ces milieux. Point de vue de Xavier Ternisien, journaliste et auteur de La France des mosquées, sur la contribution de l'islam ou de l'islamisation à la paix sociale dans les quartiers.
Il y a un vrai débat là-dessus, une interrogation de savoir si l'islam contribue à la paix sociale ou pas. Les gens du tablier vont vous dire, quand on fait le khuruj, c'est-à-dire la sortie dans les quartiers, il y a moins de délinquance. Et d'autres vont vous dire au contraire, les adversaires du tablier vont vous dire au contraire, c'est un sas vers un islam radical et une espèce de lessiveuse où on fanatise des jeunes qui ensuite passeront à l'action violente. Donc il y a débat là-dessus. Et je pense qu'on manque d'études sociologiques approfondies pour se faire une opinion. C'est une question qui se pose aux élus locaux. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a intérêt pour refroidir une cité à ouvrir une salle de prière ou une mosquée, quitte à la donner à un groupe un peu style tablier, quoi? Ou est-ce qu'au contraire, il faut continuer à passer par le secteur associatif laïque, style SOS racisme, etc. et tout, mais dont l'assise, dont l'affluence est beaucoup moindre, quoi? Il y a une vraie question, là. Est-ce que les pouvoirs publics doivent miser sur une dose d'islam pour amener la paix sociale dans les quartiers? Il y a un phénomène aussi qui est générationnel, c'est-à-dire que les jeunes qui vont venir à la mosquée vont être en contact avec souvent des jeunes dans lesquels la figure du père est discréditée, soit parce qu'il est au chômage, soit parce qu'il est parti, soit parce que pour telle ou telle autre raison. Ceux qui viennent à la mosquée, ils vont se trouver face à des figures un peu tutélaires, de soit des chibanis, de ces vieux immigrés de la première génération revenus à la foi, qui prêchent une modération, un ordre social, une obéissance aux parents, etc. Donc ça peut être pour le jeune qui va venir à la mosquée, où il y aura un staff un peu ancien, une façon de reconstruire une figure paternelle. Donneuse, le père, je vais rentrer dans les clichés, mais le père donneur de la loi, quoi, en quelque sorte. Ça passe aussi par ça. Au contraire, les salafistes, ce qu'on se constate dans le salafisme, par exemple, c'est que ce sont toujours des jeunes en rupture de banc et qui, justement, rejettent la figure paternelle en se considérant, eux, comme les meilleurs musulmans ou comme les seuls musulmans, quoi. et rejette complètement l'islam des autres en disant c'est nous c'est nous les seuls, les vrais, les purs et les durs, quoi. Et là on se rend compte que dans le salafisme là il y a une vraie rupture de génération, quoi. Ils ont rejeté l'islam des pères, quoi.
C'est une passion qui m'a permis de voyager et de voir le monde et de voir ce qui se passe ailleurs. Et c'est ça, c'est une des plus grandes richesses que j'ai pu acquérir. Voir ce qui se passe ailleurs, comment on vit ailleurs, et rentrer ensuite en France pour presque embrasser le sol français, tellement on est bien en France.
C'est vrai?
Ah ouais, franchement, si on n'a pas vu ce qui se passe ailleurs, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a ici. C'est un pays de liberté. C'est un pays qui nous permet de lorsqu'on a envie, de réussir, d'étudier, de devenir champion. C'est un pays de droit, chose qu'on ne voit pas ailleurs. Dans certains pays que j'ai visités, lorsqu'on rentre en France, qui est espagnol.
Merci à tous. C'était Thierry Charfet du La Tribune, reporter aujourd'hui. Le répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. C'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. On se retrouve demain à 17h. Je vous laisse pour le journal avec Odile Martin. Salut!